Le thème de mon message ce matin, c'est « Il peut te rendre libre ». Et je pense que quand j'ai reçu cette image ce matin, ça m'a réconforté. Et je vais vous inviter à prendre un passage, c'est dans Actes 16, au chapitre 16 à 40, et je vais inviter mon épouse à lire, parce qu'elle lit beaucoup mieux que moi, et j'ai vraiment pas envie de vous endormir.
Ces gens-là sont des Juifs qui jettent le trouble dans notre ville. Ils cherchent à introduire ici des coutumes que nous, qui sommes Romains, n'avons le droit ni d'accepter ni de pratiquer. La foule se souleva contre eux. Alors les magistrats leur firent arracher les vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. On les roua de coups et on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même, et les chaînes de tous les prisonniers, se détachèrent. Le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grand ouvertes. Alors il tira son épée et allait se tuer, car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces : « Arrête ! Ne te fais pas de mal, nous sommes tous là !» Le gardien demanda des torches, se précipita dans le cachot et, tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda : « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?»« Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé, toi et les tiens. » Et ils lui annoncèrent la parole de Dieu, à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le gardien les prit avec lui et lava leurs blessures. Il fut baptisé aussitôt après, et lui et tous les siens. Puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrit un repas et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Quand il fit jour, les magistrats envoyèrent les huissiers à la prison pour faire dire au gardien : « Relâche ces hommes !» Celui-ci courut annoncer la nouvelle à Paul. « Les magistrats m'ont donné ordre de vous remettre en liberté. Vous pouvez donc sortir maintenant et aller en paix. » Mais Paul dit aux huissiers : « Comment ? Ils nous font fouetter en public, sans jugement régulier, alors que nous sommes citoyens romains, puis nous ont jetés en prison, et maintenant ils voudraient se débarrasser de nous en cachette ? Il n'en est pas question. Qu'ils viennent eux-mêmes nous remettre en liberté. » Les huissiers rapportèrent ces paroles aux magistrats. Ceux-ci, en apprenant qu'ils avaient affaire à des citoyens romains, furent pris de peur. Ils vinrent en personne leur présenter des excuses, leur rendirent la liberté et leur demandèrent de bien vouloir quitter la ville. À leur sortie de prison, Paul et Silas se rendirent chez Lydie, où ils retrouvèrent tous les frères et ils les encouragèrent, puis ils reprirent la route.
Amen. Sacrée histoire, hein ? C'est une histoire vraiment intéressante. Et dans cette histoire-là, on pourrait prendre plusieurs points. Mais on va se concentrer sur un seul point. On aurait pu se concentrer sur le temps où Paul commence à chasser le démon, l'esprit impur. Mais on ne va pas parler sur ça. Trop long. On aurait pu parler également de la patience de Paul. Parce que franchement, pendant plusieurs jours, je pense qu'il a été patient. Mais on ne va pas parler de ça. On pourrait parler également de ce que fait Paul à la fin. Moi, personnellement, je me dis, il n'y a pas peur, hein, Paul. Il est jeté en prison et après il dit, on est citoyen romain également, donc je veux un jugement comme les autres. Parce que forcément, ceux qui ont frappé Paul, qui ont frappé Silas, ils n'avaient pas vérifié leur identité. Et Paul était citoyen romain aussi. Du coup, il voulait un jugement correct. Mais on ne va pas parler de ça non plus. Ce n'est pas le but. On ne va pas non plus parler du verset qui dit « Toi et ta famille, vous serez sauvés ». C'est une réalité, c'est vrai, mais on ne va pas parler de ça. On va parler sur cet aspect de ce qui se passe dans cette prison. Moi, cette prison, elle m'intrigue. Moi, quand on me parle de prison, j'ai cette image-là, moi, de prison. Voilà. Hop là. Hop là. Voilà. Ça, c'est les prisons de nos jours. Moi, quand je vois ça, ça me donne envie d'aller en prison. Je me dis franchement, nourri, logé. Bien sûr, c'est de l'humour. C'est pas plaisant d'aller en prison. Mais il faut prendre conscience déjà que la prison à l'époque, c'était pas une prison comme ça. Hein. À l'époque, c'est leurs pieds, ils étaient attachés, ils bougeaient plus. Ils pouvaient se pisser dessus. Il y avait des rats qui dormaient avec toi. Des cafards. Il y avait l'odeur. Il y avait les prisonniers autour de toi qui ronflaient. Parce que maintenant, en prison, chacun a une cellule avec quelqu'un, mais là, c'était vraiment les vieilles prisons, quoi. Il y avait le froid. Tu voulais manger, tu te débrouilles. C'est un petit peu ça, leur contexte. Moi, ça m'impressionne quand je vois la réaction de Paul et Silas. Donc, on voit que c'est parti d'une manière toute bête. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne. Non, la pile est correcte. Au pire, c'est pas grave, je vais vous faire signe. Voilà. Alors, c'est parti. À la base, Paul et Silas étaient en train d'annoncer la bonne nouvelle. Ils annoncent la bonne nouvelle. On voit une voyante qui gagne de l'argent pour ses maîtres et qui commence à annoncer des choses et qui commence à dire « Oui, ces personnes servent le Seigneur. Ils vous annoncent une bonne nouvelle. Ils vous annoncent une bonne nouvelle. » Une fois, deux fois, c'est sympa. Trois jours, ça commence à te prendre la tête. Moi, j'ai une collègue, je lui ai dit « Je vais à l'église. » Elle a commencé à se moquer de moi tout le temps, tous les jours. Et un jour, je me suis un petit peu excédé, quoi. Je l'ai regardé, je dis, écoute, moi, franchement, ça ne me dérange pas de rigoler. Hein. Franchement, je rigole vraiment de tout, ça ne me pose pas de soucis. Par contre, quand ça vient de la moquerie, ça commence à m'agacer. Donc, je lui dis, si tu peux arrêter de te moquer, ça me ferait plaisir. Et après, elle a arrêté. J'ai quand même eu le courage de lui dire. Parce que moi, ça ne me dérange pas de rigoler. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des amis qui, comme ils savent que vous êtes chrétien, ils vous disent, ah, si je te mets une baffe, tu dois attendre l'autre joue. Vous avez déjà eu ça? Moi, à chaque fois, je leur disais, la parole dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, ça ne me dérange pas de rigoler. Mais voilà, excédé. Et là, on voit que Paul était excédé. Donc, il ne fait rien de mal, on vient l'embêter. Il annonce la bonne nouvelle et il y a les maîtres de cet esclave qui commencent à aller dire des choses. Ces juifs, donc ils ne vérifient pas leur identité, ces juifs sont en train d'annoncer des mauvaises choses qui ne correspondent pas à nous qui sommes romains. Et là, Paul et Silas, on commence à les fouetter, on commence à les frapper, on commence à leur cracher dessus. À l'époque, c'était comme ça aussi. On les déshabille, on les met en prison. On attache leurs pieds. Ils se retrouvent dans une situation qui, franchement, d'après le texte, ils ne le méritaient pas. Et parfois, dans nos vies, c'est la même chose. On se trouve dans des situations où, franchement, on ne méritait pas de se retrouver dans cette situation-là. Et là, Paul et Silas, c'est un exemple. Mais l'exemple qui est fort, c'est leur réaction. Dans la situation, on voit qu'au milieu de la nuit, Paul et Silas commencent à prier et à chanter. Moi, quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, mais c'est des tarés. Je me suis dit, ils veulent se faire tuer, en fait. C'est ce qu'ils attendent. C'est la première chose que je me suis dit. Imaginez-vous, Paul et Silas en prison, pieds attachés, libérés. Oui, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Jésus m'a libéré. Et là, il y a les autres, ils disent, ouais, c'est ça, t'es attaché. Délivré, oui, je suis délivré. Mes péchés sont pardonnés. Jésus m'a libéré. Et les autres, ils sont là, ils font n'importe quoi. Ils sont fous, ces gars-là. Et après, ils surenchèrent. Il n'y a plus de condamnation plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Et je chante avec la foi. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Et là, les murs de la prison ont commencé à trembler. Les murs de la prison ont commencé à trembler. Et quand dans nos cœurs on est en prison, les prisons, la prison de notre cœur commence à trembler. Parce qu'il n'y a plus de condamnation. Parce que leur assurance, ce n'était pas dans ces murs. C'était le salut qu'ils avaient dans leur cœur en Jésus-Christ. Et là, ceux qui étaient là en train d'observer, tout d'un coup, ils ont dû débloquer. Ils sont passés de regarder, observer, à vivre la libération. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans les fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Ça veut dire que la liberté que Paul et Silas avaient dans leur cœur a montré le signe de la liberté aussi aux prisonniers qui étaient autour. La puissance de l'Évangile, la puissance en Jésus-Christ. Et là, on voit que le gardien, tout d'un coup, il commence à sortir son épée et il va pour se suicider. Et Paul et Silas commencent à dire « Non, stop, ne te fais pas de mal ». Là, il y a quelque chose d'incompréhensible. Le gardien, il est là, il est libre. On voit Paul et Silas qui sont assis, attachés, ils ne peuvent plus bouger, ils commencent à adorer Dieu. Les murs de la prison commencent à trembler, toutes les portes s'ouvrent. Et la première réaction du geôlier, ils se disent, ils sont tous partis, je vais me suicider. C'est qui était vraiment en prison entre Paul, Silas et le geôlier? C'était le geôlier. Parce que si tous les prisonniers partaient, le geôlier, il allait se faire tuer. Mais il n'allait pas juste se faire tuer et couper la tête, en fait. Avant, il aurait bien frappé, il aurait bien torturé, il aurait fait des choses graves, et sa famille en aurait pris des conséquences également, parce que c'était comme ça à l'époque. Et on voit la réaction du geôlier qui est prêt à mourir. Et on voit Paul et Silas. Et le gardien, il sort une torche. Il se précipite dans le cachot. Il commence à trembler. Et il se jette aux pieds de Paul et Silas. Et il leur demande, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Souvent, on pense que pour être sauvé, on doit faire les choses par nos propres forces. Mais là, Paul, il dit une seule chose. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille. Donc là, oui, dans ce passage, on voit trois types de prisonniers. Il y a les prisonniers qui sont là en train d'observer la cellule et qui te regardent et qui te moquent, qui se moquent de toi. Qu'est-ce qu'ont fait les prisonniers pour se retrouver là? Pourquoi sont-ils là? Est-ce qu'ils méritent d'être là? On ne sait pas tout. Mais parfois, c'est les fruits des conséquences. Parfois, on se retrouve en prison, dans nos cœurs, dans nos vies, ou même une vraie prison, ça arrive parfois, à cause de nos conséquences, à cause de nos actes. Là, il y a un deuxième type de prisonnier, c'est Paul et Silas. Regardez l'image, comment ils sont attachés. Ils sont attachés, là. Et ils chantent « Libérés ». Pour les gens qui connaissent mieux Libérer, Délivrer, si vous préférez chanter ça, comme vous voulez. Mais là, ce n'était pas le même contexte. Et ils commencent à chanter qu'ils sont libérés. Ils étaient vraiment attachés comme ça, hein, à l'époque. Donc franchement, ça veut dire qu'ils avaient une notion dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur vie, qui était au-delà des conditions. Au-delà des conditions actuelles. Et nous, aujourd'hui, comment on vit ? quand on se retrouve dans une condition comme ça. Si on regarde notre vie comme les prisonniers peuvent nous regarder, on va arrêter de se battre. Mais si on regarde notre vie comme Paul et Silas, eh ben on va se battre. Parce qu'on sait qu'on a un grand Dieu, qu'il n'y a plus de condamnation, que Jésus nous a libérés, qu'il nous a rachetés en son nom. Ça veut dire que peu importe ce qui se passe aujourd'hui sur ta vie, même si c'est difficile, tu as une espérance qui n'est pas celle de ce monde. Et il y a le gardien de prison qui semble libre, mais au final, on s'aperçoit qu'il est dans une prison au fond de son cœur. Il n'a pas la même espérance. Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. C'est dans quelle situation tu te trouves ? Es-tu dans la situation de l'un de ces trois prisonniers ? Est-ce que tes choix t'ont emmené dans une prison ? Que ce soit une prison physique ou dans ton cœur ? Je vais vous raconter un témoignage et ça c'est vrai. Il y a de ça très très longtemps, j'avais peut-être 17 ans tout juste, j'étais à Charleroi. Bah pour moi ça me paraît long. En fait, c'est un moment que j'ai à la fois un moment qui m'a appris, mais un moment qui m'a... Ouais, c'est vrai, je ne suis pas vieux non plus, hein, c'est vrai. C'est pas la cravate qui fait que je suis vieux. Mais voilà, quoi, j'avais 17 ans et un soir, on est parti à l'arrache avec ma sœur et d'autres amis, on est parti à Charleroi. Mais il était super tard, on est parti à 22h, quoi. On est rentré, il était tard. On avait été voir un cousin et on était dans un café. Et le cousin, il fait venir un ami à lui à 1h du matin. Moi, le lendemain, j'avais école. J'ai dit bonsoir de bonsoir. Moi, je veux rentrer, quoi. En plus, j'avais un coup de barre, j'avais envie de dormir. C'est terrible, ça. Quand tu es dans une soirée, que tu as envie de dormir et non, tu peux pas parce que tu conduis pas. Tu subis. Et il y a un gars qui vient et il commence à chanter. Et voilà, et tout, il y a tout le monde, ils sont là. Alors, il y a une expression qu'on dit, ils m'ont joints. Donc, ils commencent à me chauffer, ils me disent, vas-y, Claudio, chante. J'ai dit, non, vas-y, chante. Donc, chante, voilà. Donc, voilà, et on se faisait un battle, le truc, ça me prenait la tête. Et tout d'un coup, ma sœur a la super idée, elle dit, encore un autre gars qui était venu nous rejoindre, ah, ben, il y a un salon de coiffure, ça serait bien qu'on aille voir le salon de coiffure. Je me dis, aïe. J'ai dit, moi, quand est-ce que je vais dormir ? Du coup, on monte chacun dans les voitures et le gars avec qui j'avais fait le battle, il me dit, bah vas-y, viens, on va discuter. Donc, on monte dans la voiture, je parle avec lui. Je ne le connaissais pas, ni d'Adam, ni d'Ève, comme on dit. Et tout d'un coup, j'étais avec une amie et il commence à me dire, ah, bah alors, comment vous vous connaissez ? Je dis, bah nous, on se connaît par le biais de l'église, on croit en Dieu, nanana. Et le gars, il avait une super belle voiture. Franchement, il y avait tout. Il chantait bien, une belle voiture, super vie. Et il commence à me poser la question. Bizarrement, il me dit, comment ça se fait que tu es chrétien ? Donc, je raconte mon témoignage. Et tout d'un coup, pendant que je raconte mon témoignage, il conduisait. Hein, il commence à pleurer. Et il commence à me dire, tu sais, moi, j'aimerais me rapprocher de Dieu, mais je ne peux pas. Il dit, je sens que le diable m'en empêche. Il y a quelque chose au fond de moi qui m'en empêche. Et ce n'était pas un chrétien, hein, loin de là. Hein. Mais il savait qu'il y avait une puissance au fond de lui qui l'en empêchait. Et il m'a dit comme ça, j'aimerais m'approcher de Dieu, mais je ne peux pas. Et il a commencé à pousser un cri. Je vous assure, ce n'était pas lui le cri. C'était un esprit qui était en lui. Moi, j'avais 17 ans. Quelques mois après, j'avais prié, Seigneur, on dit qu'on peut chasser les démons, j'aimerais vivre ces choses-là. Je n'étais pas prêt. J'avais la main sur le frein à main. Tu vois, alors à la fin, il voulait qu'on prie. Tu vois, il me dit, tu veux prier ? Franchement, je dis la vérité, j'avais 17 ans. J'étais tout jeune dans la foi. Je me dis, je vais prier pour toi. Hein. Et au moment où je vais pour prier, il y a des gens qui arrivent. Et du coup, on n'a pas eu le temps de prier. Donc, soit, je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi Dieu a permis ça. Et voilà. Mais il y avait une prison au fond de lui. Et moi, ça a mis une peur en moi. Je suis rentré chez moi, j'avais peur. Parce que je grandissais dans la foi, je ne connaissais pas tout. Et je rentre dans mon garage, sombre, pas de lumière, donc encore peur. Je me dis, j'espère qu'il n'y a pas un monstre ou quoi dedans. Je rentre, je commence à monter. Il était 3h30 ou 4h du matin. Je commence à monter tout doucement. Et dans mon cœur, il y avait une prison qui s'était formée aussi. La peur, tout simplement. Et je commence à monter tout doucement. Je dis, je ne vais pas réveiller ma mère. Et j'ouvre ma porte. Et tout d'un coup, je vois une ombre dans ma chambre. Une ombre avec plein de cornes, comme ça. Et je commence à être là dans mon cœur. Je commence à prier en langue et tout. Je commence à flipper, j'ai peur. Et je dis, Seigneur et tout. Et je fais, bon, c'est tout, c'est que tu m'as préparé à ça, Seigneur, et je ne le savais pas. Donc je commence à y aller, et tout d'un coup, l'ombre, elle commence à bouger, elle se plie comme ça, elle me regarde. Et tout d'un coup, l'ombre, elle commence à parler, elle fait, c'est à cette heure-ci que tu rentres. C'était ma mère. Elle m'a fait peur. Donc j'ai dit, merci Seigneur, c'est pas encore le moment. Mais sincèrement, mais j'avais pris conscience ce jour-là. Autant je savais que les démons existaient, autant je savais qu'on peut vraiment se faire des films tout seul, mais autant je savais qu'il y avait aussi un combat spirituel. Parce que le cri de cet homme m'a vraiment effrayé. Et c'est là où j'ai dit, il faut que je sois armé. Il faut que je prie plus. Il faut que je loue mon Dieu. Il faut que j'adore. Alors après, pas il faut par religiosité, mais il faut que je prépare mon cœur à ce qui peut m'arriver demain. Ça va aller. Mais voilà, quand on vit avec Dieu, il se passe des choses. Les murs commencent à trembler. Si Dieu dit à telle personne, Jésus t'aime, tu vas lui dire, elle va peut-être pleurer. Il va se passer un tremblement en elle. Tu n'avais peut-être pas prévu ça, mais si Dieu dit de le faire, c'est ça. Et là, dans la situation, Paul et Silas, c'est ce qu'ils avaient ressenti de faire. Prier, adorer, louer Dieu. Et la prison, elle a été délivrée. Après, on peut voir un peu plus tard, Paul s'est retrouvé en prison. Ce n'est pas pour ça qu'il a été libéré, mais il a toujours adoré son Dieu. Il a toujours adoré. Et dans nos vies, c'est la même chose. Est-ce que comme Paul et Silas, tu n'as rien fait de mal, mais la situation actuelle sont pour toi comme une prison? Ça peut être la maladie. Aime ton Dieu, même au travers de la maladie. Adore-le. Tu ne sais pas quel est le plan qu'il a pour toi. Il peut te libérer, il peut te guérir. Mais le plus important, c'est que même si la maladie prend le dessus, tu aies cette assurance du salut. Parce que c'était ça le plus important. Est-ce que c'est la dépression? Aime ton Dieu. Loue-le. Parce qu'il va mettre la vie en toi. Et la dépression, elle va partir. Est-ce que c'est les moqueries? Est-ce que c'est les coups? Est-ce que c'est les insultes? Est-ce que c'est les problèmes financiers? Aime ton Dieu. Paul et Silas, dans leur prison, plus de finances. Mais ils avaient cette joie au fond de leur cœur. Peu importe la situation. Jésus peut nous délivrer. Peut-être que c'est vivre dans ce monde qui devient difficile pour toi. Aime ton Dieu. Crois en Dieu. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Peu importe la situation. Pour moi, ça me coûte de dire ça. Je ne dis pas ça pour me faire beau. J'ai vécu des choses qui m'ont coûté, qui m'ont fait mal, qui étaient difficiles pour ma vie. Eh bien, j'aimais mon Dieu. Quand Valentino était malade et était presque en train de mourir, ça m'a coûté. Je disais, Seigneur, j'ai pris la guérison. Il est malade. Ça m'a coûté. Et j'aimais Dieu. Parce que je disais, Seigneur, je veux pas. J'étais transparent, je dis, je veux pas, je comprends pas. Mais ce que je sais, c'est que tu as ancré quelque chose en moi qui fait que je t'aimerai toujours, même si je ne comprends pas. Parce que c'est le sang de Jésus qui a été déversé pour moi. Ça s'est imprégné en moi. Et c'est la même chose pour nous. Ça s'imprègne en nous. Des fois, on ne sait même pas d'où on trouve les forces. Mais quand on a Jésus, on vit des choses encore plus fortes. Ça s'est imprégné en nous. les clous qui ont été percés sur les pieds et les mains de Jésus. C'est la même chose qu'on a reçue dans nos cœurs, par la grâce de Dieu. Le sang est venu et nous a enlevés de la mort à la vie. On va prendre Philippiens chapitre 10. Parce qu'il y a un secret avant tout. Je n'ai pas pris ça juste pour vous faire plaisir. Mais la prison, ça c'est notre vie. D'accord ? Parfois on peut se trouver dans des temps de prison. Et bien en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a juste un bouton à actionner. Et c'est Jésus. Et quand on actionne le bouton, on dit « Jésus, je sais qu'il n'y a plus de condamnation. La vie, elle est dure pour moi. C'est pas grave. Mais Jésus nous libère. Les murs sont tombés. Ça a tremblé. Les fondations se sont cassées, ont été brisées. Et voici ce que dit Philippiens chapitre 4. « Je me suis réjoui comme d'une grâce venant du Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude, à mon égard, vous l'éprouviez toujours. Mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. Je m'accommoderai à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je ne connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par Jésus-Christ. La parole de Dieu dit aussi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Crois en Jésus et tu seras sauvé. Galates 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. À ma place. C'est-à-dire que même quand tu es dans une prison, même si la situation est difficile, c'est même pas toi qui la vis cette prison, c'est Jésus qui peut la vivre pour toi. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Romains 8, verset 1 dit « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » Amen. »